Alors, en studio avec nous, nous avons Marie-Ève, qui était présente à la conférence Study in Action organisée par le GRIP Concordia il y a quelques semaines. Donc, j'ai eu la chance d'assister à cette conférence dans laquelle Marie-Ève a parlé d'une critique féministe et queer des dynamiques de pouvoir dans le militantisme étudiant. Alors, bonjour Marie-Ève.
Bonjour.
Alors, d'abord, est-ce que tu voudrais me parler de cette conférence-là? Comment ça s'est passé? C'était quoi le contexte? Puis pourquoi tu as décidé de parler de ça?
Oui. Mais en fait, c'était une conférence, un panel d'ouverture de Study in Action qui s'appelait « À qui la grève? ». Donc, c'était quatre panélistes qui ont travaillé sur les dynamiques de pouvoir qu'il pouvait y avoir à travers le milieu étudiant et la grève en général. Donc, des présentations, entre autres, sur une critique des assemblées générales du Code Morin. En fait, eux, à Concordia, c'est le Code Robert, mais qui est assez ressemblant du Code Morin. C'est un peu la même chose. Bref. Donc, moi, c'est ça. On m'a approché pour faire une critique féministe du militantisme étudiant. Donc, c'est comme ça que j'ai appelé ma présentation, critique féministe et queer des dynamiques de pouvoir à travers le militantisme étudiant, où je me suis intéressée, entre autres, aux dynamiques de pouvoir à travers les structures formelles et informelles, en prenant le cas type de la classe ou l'AC. Donc, de voir à travers, justement, les pratiques organisationnelles d'un côté, donc tout ce qui est alternance homme-femme, moyen d'inclusion les dynamiques d'Assemblée générale et tout. Et d'un autre côté, tout ce qui était plus présent en coulisses, dans les parties, dans les instances, moments, groupes d'amis, etc., etc.
Est-ce que tu as choisi de focusser surtout sur l'AC ou est-ce que tu as aussi parlé des groupes militants plus informels?
Je me suis influencée d'autres pratiques pour en fait amener l'analyse, mais à la base je critiquais l'AC sur par exemple dans les structures formelles, les assemblées générales. Ce que j'ai amené un peu comme analyse à la fin, c'est que pour déconstruire les rapports de pouvoir qui sont présents de façon informelle ou formelle, il fallait s'influencer des groupes féministes ou des réflexions féministes ou de groupes affinitaires, ou dans le fond de réfléchir à d'autres façons de s'organiser, mais des façons qui existent déjà en fait. Donc sur une tentative de consensus ou de groupes, organisations en plus petits groupes, des choses comme ça. Donc, je me suis influencée, c'est ça, de d'autres groupes, d'autres pratiques pour amener la critique de l'AC.
Puis tu disais que parmi les panélistes, que c'était surtout des anglophones, puis qu'il y avait d'autres préoccupations puis d'autres manières aussi de considérer ces questions-là. Est-ce que tu veux parler de ça un peu?
Oui, je me rappelle plus exactement de son nom, mais il y avait une fille qui s'appelle Alex qui était là pour parler, entre autres, des dynamiques de pouvoir qu'il y avait à Concordia. Parce que eux, dans le fond, la façon dont leurs structures sont organisées, c'est pas exactement comme dans le milieu francophone. Il y a aussi beaucoup moins d'espace dans les assemblées générales. En fait, les assemblées générales sont pas nécessairement la principale instance de décision. C'est beaucoup les exécutifs qui prennent les décisions sans aller en assemblée générale. Donc, il y a une plus grande marge de manœuvre là-dedans. Fait qu'elle s'intéressait un peu plus à ça et à une critique queer du militantisme. Puis il y avait une autre personne qui s'appelait Gabrielle qui était là, elle, pour parler, c'est comme je disais tout à l'heure, la critique du code Morin. Puis elle a instauré, dans le fond, dans les présentations qu'elle faisait ou les assemblées qu'elle animait, une nouvelle façon plus féministe de faire les assemblées générales. Donc, ce serait intéressant qu'elle ait pu s'en parler, mais j'aurais peur un peu de déconstruire son propos. Mais elle disait en gros que elle réagissait s'il y avait des propos racistes, antiféministes, sexistes, ou oppressante dans l'Assemblée, elle réagissait en tant qu'animatrice à ces propos-là, puis elle empêchait que ces propos-là puissent se passer. Donc, par exemple, c'était des outils qu'elle donnait pour sortir de ces assemblées générales-là qui sont généralement plus oppressantes, en gros.
Puis comment tu... Parce que tu as parlé dans quoi s'inscrivait ta critique, mettons, qu'est-ce qu'elle ciblait? Est-ce que tu veux expliquer un peu plus dans quel... Qu'est-ce que t'as amené, dans le fond, au niveau de cette critique-là?
Oui, c'est ça. En gros, mettons, je vais donner deux exemples pour pas rentrer dans tous les exemples que j'avais amenés à ce moment-là. Mais je me basais principalement sur la critique de l'Assemblée générale comme moyen, comme espace de domination blanc, homosexuel, hétérosexuel et masculin. Donc, comment est-ce que... notre perspective de l'Assemblée générale comme étant l'espace décisionnel principal permettait pas de prendre en considération les dynamiques de pouvoir qui existait. Donc, dans les structures formelles, il n'y avait pas d'espace pour remettre en question les dynamiques de pouvoir, parce qu'on voit comme instance principale de démocratie l'Assemblée générale. Donc, ça, c'était une des critiques sur plus les structures formelles. Puis après ça, je m'intéressais beaucoup aux dynamiques hétérosexistes, capacitistes, dans les structures informelles, donc dans les parties, entre autres. Donc, comment est-ce qu'il y a un groupe de gens, des amis, des dynamiques amicales qui se créent, ou une certaine dynamique de travail aussi qui se crée, qui est très productiviste aussi dans les milieux sur cette nécessité de la lutte maintenant, sans prendre pour acquis les différentes réalités des gens. Donc même dans les parties, il y a aussi cette dynamique-là qui se crée.
Ouais, ça me fait penser en fait à la lettre de démission du comité aux luttes sociales de la C qui a été sortie, je pense, c'est fin janvier, début février, dans lesquelles justement, la partie privée de notre politique, on voit comment les normes sociales filtrent en fait les gens, puis que ça fait après que dans les instances politiques, donc publiques, les mêmes personnes qui sont filtrées dans les groupes où les milieux de socialisation sont aussi filtrés dans les instances politiques parce qu'en fait, ils n'ont pas assez d'amis.
Mm-hmm. Mais c'était une des bonnes parties de mon exemple aussi, ce texte-là, entre autres avec Rujdia qui avait fait partie de ce texte-là, qui faisait souvent partie des gens sur qui on faisait des blagues par son incapacité à s'exprimer correctement dans des espaces où sa dynamique de... Elle avait souvent tendance à exprimer ses émotions, mais c'était vu comme étant mal dans les assemblées générales. Donc, je me suis intéressée un peu à ça, puis à son désir qu'elle avait, puis que certaines personnes du comité au lieu social avaient de modifier, justement, prenant pour acquis ces dynamiques à l'interne-là, de modifier les dynamiques structurelles, donc d'amener d'autres pratiques. Par exemple, je sais qu'à un moment donné, il avait essayé de faire une présentation de théâtre de l'opprimé pour animer les assemblées générales, pour sortir, justement, des dynamiques habituelles.
Puis, d'ailleurs... Si je me rappelle bien, ce texte-là, en fait, j'ai fait une petite recherche sur le site de la C. Je ne l'ai pas trouvé.
Non.
Puis là, on rentre dans la question de l'histoire, justement, puis de comment les groupes vont, disons, comment l'histoire va être écrite et comment va être filtrée. Peut-être que Jeanne, maintenant, qui est en studio avec nous, peut nous parler du texte qui a été publié récemment, là.
Ouais, ben c'est ça. Nous, en fait, on est quelques filles à s'être organisées il y a un peu plus d'un mois en non-mixité pour réagir à la publication d'un livre qui a été publié chez Éco-Société par Philippe Etier puis Renaud Poirier-Saint-Pierre, qui sont des anciens militants très actifs à l'intérieur de la C puis de la classe pendant la grève. Rapidement, Philippe, il a été exécutant à la C puis à la classe, puis Renaud Poirier-Saint-Pierre était attaché politique, attaché de presse de la classe pendant la grève. Puis nous, on est quelques filles, au moment de la publication de leur livre, à avoir voulu s'organiser puis réagir parce que, en fait, avant même d'avoir pu lire ce livre-là, eux-mêmes définissaient leur livre comme un désir de créer un récit consensuel de la grève. Ça nous a pas étonnés parce que ça participe à des dynamiques à critiques auxquelles on est assez familière à l'intérieur de la C depuis quelques années. Mais bon, on se disait que plutôt que de vivre ça toute seule dans notre coin, ben c'était peut-être plus fun de s'organiser. Puis en fait, on a publié nous-mêmes un texte qui est disponible, je peux le dire tout de suite, sur jesuisféministe.com, dans lequel on expose notre critique. Puis on a aussi décidé d'organiser une action au moment du lancement du livre au Lion d'Or. On a fait un drop de bannière sur laquelle il était écrit de l'école à la rue. C'est ça, le titre du livre, c'est de l'école à la rue, la violence de l'école à la rue dans les coulisses de la grève étudiante. Puis nous, c'est ça, sur notre bannière, c'était écrit de l'école à la rue, la violence d'une histoire consensuelle. Donc c'est un peu ça le propos général de notre texte. Au moment du lancement, on a aussi diffusé des tracts qui rendaient compte des idées principales de notre texte, là. Puis si je peux dire brièvement, là, c'était quoi le propos que nous, on exposait? C'est en fait, on s'opposait particulièrement à l'idée de créer un consensus autour de la grève, parce que l'objectif pour eux, c'était que ce récit-là puisse être utilisé pour les générations futures. Puis nous, ce qu'on disait, c'est que les générations futures, là, déjà, c'est déjà contestable là, comme objectif, mais même là, il me semble personnellement que ce dont ces dites générations futures ont besoin, c'est pas d'un consensus, mais c'est de débats, des conflits, des tensions internes qu'il y a eu, puis qu'il y a encore à l'intérieur de la C, puis de la classe, sur les manières de faire la politique. Puis aussi, ce qu'on critiquait, c'était que juste le fait de publier puis de privatiser son bilan de grève, c'est faut être dans une position de privilège pour pouvoir le faire. C'est beaucoup plus facile de faire ça quand on est un homme blanc qui subit pas d'oppression spécifique par rapport à son identité. Faut avoir des contacts souvent, faut avoir les ressources, faut avoir du temps. Puis selon nous, c'est ça, c'est un peu s'approprier les connaissances puis les expériences collectives qu'on a vécues puis qu'on a expérimentées à travers la grève, mais aussi dans les années passées qui ont préparé la grève. Fait que c'est ça qu'on contestait, là.
Ben, dans votre texte, vous parlez de tout à travers la grève, il y a eu beaucoup de retours critiques. Donc, on a parlé du texte qui a été publié par le comité aux luttes sociales. Puis vous dites que les retours critiques ont été dévalorisés. Ça, est-ce que c'est quelque chose que vous avez... Ben, est-ce que comme tu as des exemples de ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as observé comme seulement à l'intérieur de la C ou comme de manière plus générale dans les militants de la grève?
C'est ça. On est quelques filles à s'être organisées puis à avoir écrit ce texte-là, puis c'est ça, je veux juste mentionner qu'on a toutes vécu la grève à partir de positions puis dans des perspectives différentes. Fait que je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler, mais en fait, je sais qu'il y a des filles avec qui je me suis organisée puis qui ont participé à ce texte-là, qui ont été plus parties prenantes dans des instances de la C, particulièrement sur le comité femmes, qui a vécu un peu la même chose que le comité aux luttes sociales, qui a démissionné en bloc, puis qui ont diffusé leur lettre de démission dans lesquelles il y avait beaucoup de critiques à faire de la C, puis de la classe, puis de ses structures, puis de sa reproduction des rapports de pouvoir puis de domination. Puis c'est ça, ces critiques-là sont... C'est drôle parce que quand elles sont émises, ces critiques-là, il y a très souvent un silence radio. Les structures font en sorte qu'elles sont vraiment invisibilisées, puis que comme si c'était se désolidariser. Tu sais, chaque fois qu'il y a une critique qui est émise, ça met en jeu puis ça met en danger cette vision aplanie d'un nous commun. Puis comme si on se désolidarisait, alors que notre vision, nous, de la solidarité, c'est une compréhension dynamique de nos rapports, c'est un désir puis une nécessité de dialogue puis de remise en question de nos rapports entre nous, tu sais. Donc, ouais.
Mais c'est intéressant parce que dernièrement, justement, il y a quelqu'un que je connais qui, un gars, homme, blanc, hétérosexuel, qui a fait un retour sur un peu tous les textes qui ont été écrits dans les dernières années par l'AC puis les critiques féministes qui ont été faites. Il a dit, il a dit que c'était difficile à trouver, mais de deux, ce qui est vraiment ironique avec l'écriture de son texte à lui, qui était un travail scolaire à la base, c'est qu'après ça, il a été... Il a donné son travail à la professeure. Après ça, la professeure l'a donné à un sociologue. Et là, le sociologue l'a publié. Et ce texte-là est devenu tellement populaire, tellement important, quand ces critiques-là, dans le fond, elles avaient été faites vraiment souvent avant par plein de gens. Par exemple, les communautés femmes. Je me rappelle, le dernier communauté femmes qui avait démissionné en bloc avait écrit des textes vraiment intéressants aussi par rapport à ces critiques-là. Puis on voit aussi qu'à travers les années, les textes sont toujours réécrits. Puis pour trouver les archives, c'est super complexe. Si on pense... seulement à la critique qui avait... En fait, la demande qui avait été faite à Anne Dagenais de faire une critique des dynamiques de pouvoir et du rapport homme-femme à la C, que quand elle avait déposé, dans le fond, son mémoire, qui était un travail scolaire aussi, mais quand elle avait déposé, il avait été rejeté par la C. Ça a été très long avant qu'il accepte de le mettre sur le site. Ça a été vraiment plein de luttes féministes aussi pour être capable de le mettre sur le site web de la C comme outil crédible, en fait. C'est souvent ça, la crédibilité qui est mise en jeu dans les critiques qui sont amenées.
C'est ça, c'est la question de l'image. Puis là, on rentre aussi dans un autre rapport à la lutte, en fait. Tu sais, quand on observe le site web de la C, la stratégie médiatique de la C, là, en tout cas, pour ma part, je saisis mieux comment ça se fait qu'il y a une volonté d'unité, mettons. Mais c'est quoi cette volonté-là, tu sais?
Ouais, puis d'ailleurs, tu sais, dans le livre, justement, qui a été publié par Philippe Etier puis Renaud Poirier-Saint-Pierre, le, le mot féminisme apparaît 3 fois dans le livre, dont une fois dans le corps du texte. Puis c'est un exemple juste pour... C'est un exemple parmi tant d'autres pour montrer à quel point les critiques, souvent, elles sont pas considérées ou on leur accorde pas d'importance, alors que le mot média apparaît continuellement dans ce livre-là. Puis moi, je pense que ça fait partie depuis quelques années, puis on l'a vu beaucoup aussi à travers la grève, d'une tendance à l'intérieur de la C qui est de travailler sur l'image de la grève, de quoi on a l'air. Puis on en parle aussi dans le texte, c'est ça justement d'accorder vraiment beaucoup d'importance à ce dont on a l'air de l'extérieur. Puis ça fait en sorte que aussi qu'on est plus capable de se poser des questions sur nos dynamiques internes, puis sur nous en tant qu'acteurs puis actrices politiques. L'ennemi en nous, tu sais, il est où, puis comment le déconstruire, puis qu'on extériorise tout le temps l'ennemi comme si... parce que c'est plus facile, parce que c'est plus simple, parce que c'est moins dangereux, tu sais.
Ouais, ben là, moi, j'entends ça, puis moi, ce que ça me pose comme question, c'est, mais dans le fond, pourquoi d'abord intégrer ces structures-là? Est-ce que ça vaut même la peine de les critiquer de l'intérieur? Est-ce qu'il y a peut-être pas moyen de partir d'ailleurs? Mais là, après, ça amène la question de, est-ce que ça se peut d'avoir une grève sans Assemblée générale? Est-ce que ça se peut d'avoir une grève sans mobilisation massive organisée par le haut? Donc, est-ce que ça se peut d'avoir une grève sans ces structures-là qui vont être nécessairement oppressante de plein de manières.
Mais moi, dans ce cas-là, je poserais la question de pourquoi la grève, puis comment la grève, comme qui fait écho à ça, dans le sens où je vois mal une grève, si justement une grève part pas de la base, je vois mal comment elle peut remettre en question les dynamiques de pouvoir à travers cette même base-là, si elle vient d'une élite à la base, parce que je pense qu'il faut prendre un peu pour acquis que les gens qui sont à la C, c'est des gens qui ont du temps, justement, c'est principalement des hommes blancs, donc ça reste une élite qui contrôle cette grève-là ou qui crée l'image de cette grève-là. Et cette image-là qui est créée, pour moi, elle est nécessairement raciste et sexiste parce qu'elle se pose sur un consensus social quand même.
Ben, j'irai dans une petite pause musicale maintenant. On continue, en fait, avec Marie-Ève, Jeanne et Camille, qui est maintenant avec nous en studio.
Oui, ben donc on continue à parler du texte quand le spectacle se poursuit en coulisses et aussi en général d'une critique féministe du militantisme étudiant. Donc vous êtes toujours sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Alors ben on va commencer avec notre nouvelle invitée. Alors ben bonjour Camille.
Bonjour.
Ben j'aimerais ça que tu me parles en fait de l'origine pour toi de vouloir participer à ce texte-là. C'est quoi les expériences que tu as vécues? C'est quoi que tu voulais critiquer? C'est quoi que tu voulais dénoncer en participant à ça?
Ben au départ, on était différentes filles de l'UQAM qui se connaissaient pas nécessairement, pas nécessairement des amis, mais on s'était rencontrées dans des manifs, on se voyait dans la rue, dans des instances de la C, de la classe, entre autres. Et on s'est parlé rapidement, puis on sentait vraiment qu'il y avait un moment d'animosité suite à la publication. Ben, quand on sachait que le livre allait être publié, puis les gens se disaient non, ça peut pas avoir un lien avec notre expérience, ce qu'on a vécu, c'est totalement discordant. On se sentait vraiment comme un peu violenté de cette situation-là, puis écrasé, là. Comme si on avait aplani toute ce qu'on avait vécu, ce que les gens nous avaient dit, ce qu'on avait décrié aussi, parce que les féministes ont aussi beaucoup, beaucoup écrit là, dans les dernières années. C'est des choses qui se retrouvent presque pas. C'est difficile à voir, à consulter, à partager, mais ils ont énormément écrit. On sentait qu'il n'y avait rien qui avait été pris en compte non plus là-dedans, où on savait déjà un peu que rien allait être pris en compte. On a décidé un peu de s'organiser juste pour arrêter d'être aussi déprimé puis mal puis reprendre un peu de contrôle. Là. Alors, c'était ça l'idée au départ, puis ça a bien fonctionné quand même.
Mm-hmm. Puis, ben en fait, j'aimerais que vous parliez des réactions à votre texte, parce que je sais qu'il y en a eu, beaucoup de, ben évidemment, j'imagine des gens de l'AC, mais aussi d'autres militants qui ont critiqué pour différentes raisons. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans les réactions?
Ben après ma barre, une réaction un peu étonnante qu'on a vue, c'est que les deux auteurs du texte et leurs collaborateurs autour ont tout de suite dit à la première seconde que c'était une excellente critique, puis c'était un excellent texte, qu'il fallait vraiment y répondre, c'est vraiment important. Alors que justement, comme j'ai dit, il y avait plusieurs critiques qui ont été écrites par les mêmes personnes depuis des années et qui ont jamais été prises en compte, puis qui ont été effacées, balayées, invisibilisées. Ah, c'était un peu étrange au départ. On a fait comme, oh, ben c'est quand même assez du réchauffé qui a déjà été dit ailleurs sur d'autres plateformes, d'autres moments. Alors, ça, c'était un peu surprenant. Mais Il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues nous voir pour nous dire que, justement, ça répondait un peu au malaise qu'il y avait par rapport à cette production-là, qui sont venues nous dire qu'une chance qu'on l'avait faite, qu'on avait du courage de le faire, des gens... qui sont venus aussi nous dire que c'était vraiment important de montrer qu'il n'y avait pas un consensus au niveau du mouvement étudiant, parce que je pense que vous l'avez expliqué tantôt, mais c'était ça un peu la démarche des auteurs, de démontrer qu'il y avait un consensus qui existait, puis que les réflexions étaient assez consensuelles, puis c'était un certain guide pratique. En nous, l'idée, c'était beaucoup de monde qui sont venus nous dire aussi, c'est pas ça qu'on veut qu'ils retiennent dans l'histoire, puis c'est pas ça que les générations futures, c'est comme ça qu'ils appellent, ont besoin pour l'avenir.
Ouais, puis... aussi, peut-être que c'est important de mentionner qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont fait des bilans de grève, qui ont été soumis au conseil d'orientation de l'AC. Puis ça aussi, je pense que c'est pas une réaction directement au texte, à notre texte, mais ça fait partie de ce qui tourne autour du bilan de grève de Philippe puis de Renaud, qui lui a été privatisé puis publié chez Éco-Société, alors qu'il y a plein de gens, eux, qui ont soumis leur analyse puis leur critique de la grève, qui est d'ailleurs pas mal moins positive, beaucoup plus critique de ce moment-là qu'on a vécu, puis de ce qu'il faut transformer, là, des réflexions beaucoup moins consensuelles.
Ben, à ce niveau-là, peut-être juste pour faire une promotion, c'est ça, on peut retrouver sur le site qu'il y a un blog qui a été créé, Congrès d'orientation AC, point quelque chose. Vraiment beaucoup, beaucoup de publications qui ont été faites par différentes personnes qui ont milité de près ou de loin avec l'AC, la classe, pour faire un point, un bilan sur leur expérience, sur leur analyse. Puis il y a des textes, par exemple, la majorité des textes, comme dit Jeanne, ont aucun rapport avec la présentation qui est faite par Renaud et Philippe. Par exemple, il y en a qui parlent du montréalocentrisme, des rapports de domination, des rapports de sexe, de race, de classe, tout ça qui est présent à l'AC, des différents liens avec les partis politiques, les différents problèmes avec les différentes coalitions, qui montrent toutes les inégalités justement qu'il y avait, puis on voit qu'il n'y a vraiment pas de consensus autour non plus des pratiques ni des tactiques, ni c'est vraiment riche, il y a plein de choses là-dessus, mais c'est ça, c'est nulle part, c'est considéré. Hein.
Puis il y a aussi, moi j'ai reçu des critiques aussi de gens dans le milieu anglophone qui étaient vraiment contents puis contentes que il y ait une critique de ce livre-là qui sorte, parce que je pense que souvent dans le milieu anglophone qui est moins organisé sur la base de syndicats étudiants, il y a tendance à comme faire une glorification de l'AC puis de le monter sur un piédestal, puis que quand il y a des critiques, ben ça peut c'est important, c'est ça, de mettre à mal un peu cette vision-là idéalisée de l'AC.
Mais c'est intéressant parce que c'est justement un peu la réaction quand je suis allée donner l'atelier à Student Action que les gens ont eu par rapport à la critique de l'AC, que justement les gens s'attendaient pas à ce qu'il y ait toutes ces dynamiques-là qui existent, puis pensaient qu'ils en sont sortis un peu. Donc c'est intéressant de voir que justement comment justement publier un livre chez Éco-Société, par exemple, ça, le truc devient public, tandis que par exemple le congrès, ça reste quand même assez du domaine du privé, et les critiques généralement qui sont faites à l'AC restent dans une logique plus privée. Donc comme qu'est-ce qui est comme privé, qu'est-ce qui est public là-dedans, qu'est-ce qu'on veut rendre accessible, qu'est-ce qu'on veut rendre accessible en fait pour créer l'image dont on parlait tout à l'heure justement.
Ben, tu sais, je pense que éventuellement ça pourrait être intéressant. Le problème, c'est pas tant de publier des livres, tu sais, mais ça pourrait être intéressant de publier des analyses qui sont le fruit d'un travail collectif ou qui inclut plusieurs visions puis tensions politiques à l'intérieur de la grève. Mais c'est pas le cas, tu sais. Puis c'est vraiment selon moi, c'est tellement frais encore, la grève, que c'est comme si ça fermait ce moment-là historique. Ça bon, mais là c'est terminé, puis là on est déjà à l'heure de faire des bilans de ce qui s'est passé, tu sais, alors que il y a beaucoup de trucs à évaluer selon moi encore.
Ouais, c'est intéressant ça. Comme si l'histoire se terminait maintenant là. Puis je me demandais, Marie-Ève, si dans les critiques qu'on vient de nommer puis de mettre sur la table là, si toi à l'atelier, si tu te rappelles s'il y a des échos du même type ou de d'autres types dans le milieu anglophone?
Quand même, mais je pense que j'ai pas participé à tout le panel, donc peut-être que Karine pourrait répondre dans d'autres ateliers, mais la critique de... Il parlait beaucoup moins de l'image, en fait, parce que je pense qu'il y avait un rapport beaucoup moins, justement, vu que c'est plus fractionné, puis c'est moins organisé, il y avait moins de travail sur l'image qui était fait. Ça a été abordé un peu, mais pas tant que ça. Donc... je pense pas, je sais pas exactement les critiques en fait qui est apportée. Mais je pense par exemple une des critiques qui avait été faite, puis j'ai repensé tantôt quand je parlais des structures plus formelles des assemblées générales, mais une dynamique qui a aussi de réponse aux critiques, c'est de répondre par par exemple, au texte du comité aux luttes sociales, les critiques principales que j'ai entendues, c'est « Ah, mais on peut pas changer les structures formelles de l'AC, donc on peut rien faire. » Parce que c'était une des critiques qui était apportée par le comité aux luttes sociales, c'était qu'il fallait modifier puis réfléchir aux structures. Donc, dès qu'on dit « Ah, mais on peut pas les changer », après ça, tout le contenu et tout le fond de la critique, elle est pas remise en question, elle est pas discutée. Puis c'est souvent une dynamique qu'il y a par rapport aux textes qui sont amenés par des féministes ou par des personnes racisées ou homosexuelles à l'AC.
Mais c'est-tu plus facile de faire ces critiques-là, vous pensez, dans des milieux comme, mettons, le milieu anglophone, où quand vous dites que c'est pas, qu'ils sont pas structurés à travers des syndicats, c'est-tu plus facile d'amener ça? Parce que c'est sûr que tu peux pas te faire accuser de briser l'unité du mouvement, parce que, tu sais, y en a pas vraiment. Mais est-ce que c'est plus ouvert à ce niveau-là?
Ben, peut-être, moi, qu'est-ce que j'ai constaté à travers le temps quand je me suis impliquée dans le mouvement étudiant, c'est que les milieux anglophones sont assez ouverts en général aux différentes critiques, puis à y réfléchir. Comme tu vois, les gens qu'on connaît davantage, qui nous ont demandé de publier notre texte en anglais aussi, trouvaient ça vraiment normal puis vraiment correct. Alors, moi, j'ai toujours eu une vraiment bonne réception par rapport à ça. J'ai remarqué qu'à l'AC, au contraire, on avait souvent peur de pas être en train de faire assez d'autopromotion du mouvement. Puis, tu sais, on s'est fait souvent refuser la publication de textes ou de bilans qui réfléchissaient sur les dynamiques internes puis les différentes problématiques parce que ça serait pas beau à l'extérieur puis toute cette idée-là. Puis, je pense qu'il y a quelque chose qui est moins travaillé dans le milieu francophone présentement, puis c'est toute l'idée de la politisation par justement la critique et les contradictions, à essayer de cibler les différentes contradictions internes, permettre à mon, puis c'est une des critiques qui avait été faite au texte, à mon sens, davantage de développer une politisation intéressante pour les générations futures, mettons là, comment qu'ils appellent, pour les gens qui vont s'impliquer plus tard dans le mouvement étudiant, parce que ça permet de comprendre les différentes dynamiques, les différentes tensions, puis c'est là qu'on en retient quelque chose pour plus tard, puis pas seulement par comment qu'on fait pour compter il y a combien de monde dans une manif, comment qu'on fait pour par envoyer un communiqué de presse, ça permet pas nécessairement quelque chose d'intéressant pour le long terme.
Puis il me semble, en tout cas de mon expérience, de ce que j'ai observé, il me semble que dans le milieu anglophone aussi, l'analyse des différentes oppressions est beaucoup plus acceptée puis beaucoup plus développée. La majorité des gens, ils sont plus familiers avec cette critique-là, il me semble. Puis dans le milieu anglophone, c'est moins le cas. Fait que peut-être qu'il y a aussi, tu sais, il y a un travail aussi d'éducation à faire sur cette analyse-là intersectionnelle des oppressions.
Ouais. Ben oui, ben parce que l'idée que l'histoire, en fait, ça appartient à chaque personne qui a vécu ces moments-là, puis là, dans l'idée d'une politisation plus fractionnée, justement, ou disons, en fait, plus globale, parce que quand tu comprends mieux les différentes tendances, tu peux aussi mieux te situer toi, puis mieux saisir pourquoi toi tu veux t'impliquer, pourquoi toi tu veux faire cette chose-là précisément, tu sais. Puis ça, en plus, ça, je trouve que ça brise l'idée de spécialisation de la lutte, qu'il y a beaucoup, justement, là, c'est aussi...
Oui, normalement, mais peut-être juste pour finir, c'est une des critiques féministes qui a été le plus amenée à l'AC, entre autres, c'est la critique des experts, de la spécialisation, puis de déconstruire ce modèle-là, c'est un peu ce qu'on voulait aussi dire, que c'est une écriture des rôles là, dans le livre, là, parce que c'est ça qui est intéressant à lire, c'est tout construit sur la base d'une idée, d'une image de comment se représente, comment fonctionnent les héros d'une histoire, puis juste ça à briser, c'est comme un travail immense, mais ce qui est le fun à retenir peut-être sur l'action qui a été faite du livre, qu'on a eu aussi des gens qui nous ont parlé, c'est beaucoup... qu'on peut faire vraiment des grandes choses, mettons des choses qui frappent fort en étant juste un petit groupe de personnes qui décident de partir avec une démarche honnête sur là, quelque chose qui leur fait violence assez de manière importante, puis de juste pousser quelque chose, puis de pas être gêné de le faire, puis genre que ça l'a vraiment, les textes ont été super appréciés, il y a beaucoup de monde qui l'ont lu, etc. Puis ça l'a marqué autant presque la sortie du livre. En tout cas, il y a quelque chose là-dedans à retenir qu'on peut faire beaucoup. On était quoi? On était 10? Mais on avait vraiment le goût, puis le besoin, tu sais.
Mais c'est intéressant parce que à la question qu'on posait avant la pause musicale sur est-ce que ce serait possible de s'organiser à l'extérieur justement de ces assemblées générales-là, de faire une grève qui soit pas basée ou qui parte pas des assemblées générales, ben c'est là que je vois la possibilité, par exemple, à travers l'inspiration du milieu anglophone où il y a une possibilité de création d'une solidarité puis d'un milieu collectif assez fort quand même, mais qui part de où se place chaque individu puis comment chaque individu vie où est-ce qu'il se place, en fait. Donc, ben, je pense qu'en fait, c'est une piste de réflexion, puis je voulais juste comme ramener ça un peu.
Ben, je pense que ça va... C'est tout le temps qu'on a. Mais c'était vraiment intéressant. Merci, Marie-Ève, Camille et Jeanne. Les sites web, peut-être, on peut les rappeler. Le texte je suis féministe.com.
Ouais.
Sinon, Camille, t'as parlé
du congrès d'orientation de l'AC, qui est plein de textes de réflexion intéressants.
Mais il y a le lien, à partir de notre texte, il y a le lien vers...
Bravo, Jeanne!
Donc, vous devez lire le texte, et ensuite...
Et il y a la version anglophone aussi à la fin du texte.